Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, merci d'être fidèle au rendez-vous de Vivante Église. Nous inaugurons aujourd'hui une série d'émissions dans lesquelles nous allons mettre en regard les traditions juives et catholiques en partant de textes bibliques pour montrer les points de convergence qu'il y a entre elles, sans nier les différences, et ce dans le cadre d'un échange que nous espérons aussi éclairant que fécond. Nous ouvrons cette série avec un numéro consacré au chapitre 19 du Lévitique. Voici les deux intervenants récurrents de ces émissions qui vont échanger leur point de vue sur les textes qu'ils ont choisi de commenter. Je salue tout d'abord Ephraim Tettelbaum, membre de la communauté juive de Toulouse, ex-délégué régional du Fonds social juif unifié, et je salue le frère Édouard Divry, dominicain, docteur en théologie et professeur d'hébreu. Je précise que vous avez été également délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme à Toulouse et à Montpellier, et que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Vous avez donc choisi aujourd'hui d'échanger ensemble autour du 19e chapitre du Lévitique, qui en compte 27, je le rappelle. Le Lévitique insiste, pour l'essentiel, sur la sainteté de Dieu et sur le code selon lequel son peuple doit vivre pour devenir saint. Avant de rentrer dans le détail des 37 versets qui le composent, quelle est, pour vous, l'essence générale du message que l'Éternel veut transmettre à son peuple dans ce 19e chapitre du Lévitique? Et nous allons commencer avec Ephraim Tettelbaum.
Bonjour à tous, merci pour la présentation. Comme d'habitude, avec les frères Édouard Divry, nous échangeons sur des chapitres bibliques, la Torah, le Pentateuch, des chapitres du livre Lévitique qui sont particuliers puisque ces chapitres égrènent des lois, c'est sa particularité. Alors, on voulait aussi parler du chapitre 18, tout à l'heure, sans doute avec le père Divry, nous allons y aborder. Et ces chapitres incluent des versets extrêmement connu dans le monde entier, par toute l'humanité, mais il dit, Dieu dit, s'adresse donc à Moïse, il parle à Moïse, hein. C'est une particularité qu'un être humain parle avec Dieu directement, et Moïse a ses privilèges, il dit, parle à tous les peuples d'Israël, et tu leur diras, saint vous serez, car saint je suis, moi, Adonai Elohechem, c'est-à-dire, votre Seigneur, votre Dieu, votre Seigneur. Et il explique pourquoi. Et un des passages, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis Dieu. » On oublie toujours les derniers, parce que si Ephraim Tettelbaum dit « Écoute, il faut que tu m'aimes comme toi-même », on peut me dire « Écoute, Ephraim, t'es gentil, mais on s'en fout ce que tu racontes. » Par contre, quand c'est Dieu qui le dit, c'est une autre histoire. Voilà, mais il ne faut pas oublier ça. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », on a déjà parlé sur ce thème. C'est un thème très compliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire « soyez saint » ? Comment un être humain peut être saint comme ce qu'on appelle nous en hébreu « Hakadosh Baruch Hu » les saints, béni soit-il. On dit dans la Torah que chaque être humain a une étincelle de sainteté. Et cette étincelle de sainteté, on peut trouver ou découvrir chez l'autre. Parce que si Dieu m'a créé son image, chapitre 1 et 2 de Genèse, et moi et l'autre, la même chose, tous les êtres humains, à commencer par Adam et Ève, Chava. Et donc, c'est cette recherche de la sainteté, de cette petite portion de l'âme de l'autre qui est recherchée dans ces versets. Voilà pourquoi aussi, dans les 10 commandements, chez nous on dit 10 paroles, Aseret Hadibrot, Dieu parle, il ne fait rien avec ses mains, il n'en a pas. Dieu d'Israël, et donc le Dieu de Jésus, est esprit. Voilà pourquoi le judaïsme et le christianisme ont la même source. Et ce sont les deux uniques. Il n'y a pas d'autre. Et donc, à partir de là, comment trouver chez l'autre cette lueur d'âme et de sainteté? Et ça passe par le comportement et la relation avec autrui. Le chapitre 18, par exemple, avant, qui s'appelle « Abomination », qui traite des problèmes d'abomination, ce qui est abominable aux yeux de Dieu, qui obscurcit justement cette éclaircie sainte dans l'âme de l'être humain, on en parlera tout à l'heure, avec beaucoup de précautions, bien sûr, mais vous verrez de quoi il s'agit. Il s'agit vraiment du comportement entre l'homme et la femme, et de la famille, de l'interdiction, de l'inceste et d'autres pratiques. Ça, c'est primordial pour préserver justement cette sainteté de l'âme.
Alors, très heureux de pouvoir participer à cette émission. Je salue tous les auditeurs, Eric qui nous accueille. Et il est vrai que le Lévitique, pour nous, est central. Central dans la Torah. Si je calcule le nombre de versets, le nombre de mots de manière hébraïque, je tombe pile au milieu. « Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. » Donc cet appel à la sainteté est vraiment le cœur de ce qu'on appelle le Pentateuque, comme a très bien dit Éphraïm. Et on reconnaît tout à fait les échos qu'il a eus dans le Nouveau Testament, puisque Jésus lui-même, dans saint Matthieu, dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », ou dans saint Luc « Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait ». Donc il y a cette double dimension de miséricorde et de perfection qui est sous-entendue dans ce « Soyez saint comme moi je suis saint ». Et comme a très bien dit Éphraïm, il y a le double commandement que Jésus n'a cessé de répéter pendant tout l'Évangile, qu'on doit aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Et même, il se donne comme modèle, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, le commandement qui est au verset donc, très proche, 17, par rapport au verset 3, eh bien, entre ce verset 3 et ce verset 17 du chapitre 19, il y a dans le fond un condensé de tout ce qui va être redit dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, d'une manière continue, comme un jet continu à partir de cette source originel, et n'oublions pas que pour nous chrétiens, le Verbe de Dieu, c'est Jésus. Et si le Verbe de Dieu est Jésus, il n'y a pas de contradiction entre la parole de Dieu donnée dans les premiers livres de la Torah et ce qu'il dit aux hommes à travers l'expérience évangélique. Et donc c'est tout à fait pour nous un lieu, je dirais, de connivence, un lieu de rencontres, d'échanges profonds, puisque nous retrouvons nos racines propres et nous pouvons dire que le thème de notre émission « Deux traditions et un sens » trouve vraiment son climax, son éthos aussi, pour comprendre comment vivre ensemble aujourd'hui avec la pluralité légitime de nos distinctions. Hein. Et cela, nous ne voulons pas les retirer, nous voulons au contraire, en nous écoutant les uns les autres, mieux approfondir le trésor qui nous est déjà donné depuis les apôtres.
Alors, bien entendu, les juifs que je suis, lorsque j'entends le père Édouard d'Ivry, je ne peux qu'être d'accord complètement. Ça, c'est important d'entendre.
Et de le préciser.
Oui, précision importante dans notre manière de se parler, s'apprécier et s'aimer. Je pense que c'est très important. Je voulais insister sur un autre point dans la sainteté. Il est écrit que « Sois saint parce que je suis saint », c'est toujours une référence à Dieu. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais ça, on le sait, on l'a dit. Mais il est dit « Afin d'être saint », il y a l'âme, il y a l'esprit, mais il y a les matériels, le quotidien, la vie des êtres humains. Et là, il est dit, il faut que tu t'améliores aussi dans ce que tu es permis. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il t'est permis, par exemple, de consommer des choses, d'avoir des relations intimes, qu'importe le domaine. Il est dit, si tu veux t'approcher de la sainteté, et vous verrez ce que je vais dire tout à l'heure. Et si vous voulez vous rapprocher de la sainteté, ça vous est permis. Permis, hein. Mais faites un effort, y compris dans ces domaines-là, si vous voulez vous rapprocher de la sainteté. Évitez certaines pratiques. Bon, le père d'Ivry ne me condamnera pas tout de suite lorsque je dirai qu'il y a une notion dans le judaïsme, que le christianisme a repris, qui s'appelle nazir. Nazir, c'est moine.
Tout à fait.
C'est venu du judaïsme. Hein? Le christianisme n'est pas venu des vides. Et donc cette notion-là, Nazir, par exemple, Samson était nazir. Pourquoi nazir? L'itnazer, c'est empêcher de faire certaines choses. Par exemple, couper les cheveux et boire de l'alcool, du vin. C'était la source de sa puissance. De même, l'annonce faite à la mère de Samuel, le prophète Samuel, hein, il y avait plusieurs femmes qui avaient des annonces. Pas celles comme un mari, pas la virginité. Hein. Elles ont connu l'homme, comme on dit. Hein. Vous savez, la manière biblique de dire ça. Pas mari. Mari, c'est une autre affaire et c'est une autre histoire tout à fait particulière. Mais donc, il y avait dans les peuples juifs cette tendance. Et les tzadikim, les saints chez nous, tzadik, ça veut dire juste. On pratiquait ça, c'est-à-dire aller au-delà des commandements. Même lorsque certaines pratiques vous sont permises, si vous voulez atteindre cette étincelle, la Kabbalah, les Zohar, la splendeur, c'est la Kabbalah, c'est la réception, c'est l'étude juive de l'inconnu, de propriété divine, etc., la relation entre l'être humain et le divin. Et donc, il y avait cette pratique d'aller dans le désert, par exemple, le désert du Juda, et vivre avec la nature seule, méditer, etc. Donc, s'empêcher de faire certaines choses qui sont permises. Et donc, voilà, le christianisme a repris cette idée.
Oui. Et
alors, précisez,
le mot parfait qui implique donc non seulement une perfection morale, mais qui indique aussi atteindre sa fin. C'est cela que veut dire dans Saint-Luc, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et cela implique donc des séparations. Et ces séparations, c'est ce qu'essaye de faire dans les conseils évangéliques, la vie religieuse chrétienne, catholique en particulier, dans la vie monastique, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, une certaine séparation des choses qui sont bonnes en soi, permises, comme dit très bien Ephraim, mais le conseil évangélique de pauvreté, de chasteté et d'obéissance veut entraîner plus loin dans l'ordre de atteindre plus vite la fin. La fin est la même pour tout le monde. L'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu, donc il a la même finalité, mais on peut prendre des moyens différents, des moyens qui sont bons, tous, mais des moyens qui vont vous permettre de vous propulser plus rapidement vers le terme. Fin. Et donc, du coup, dans le mot perfection, il y a en même temps cet attrait à trouver le moyen le plus sobre, le plus rapide pour atteindre sa fin. Et c'est là où nous avons le commentaire d'Origène qui dit très bien « Soyez saints parce que je suis saint. Ce que la loi veut appeler saint, elle ordonne qu'il ne serve à rien d'autre qu'au Seigneur seul. Ainsi appellera-t-elle saint les vêtements sacerdotaux, les animaux offerts en sacrifice, les vases liturgiques. Et en vertu de cette consécration, l'homme lui-même sera appelé saint. Si quelqu'un se voue à Dieu, donc le nazir, s'il ne cherche pas ce qui est sur terre, mais ce qui est dans les cieux, il sera appelé saint à juste titre. Sépare-toi des convoitises du monde, consacre-toi à Dieu comme le taureau premier-né, que le péché n'opère pas par tes mains, que la perversité ne t'impose pas son joug, reste à part comme les vêtements sacerdotaux, comme les encensoirs sacrés qui servent seulement au culte de Dieu. Voilà l'idée, si vous voulez, de la perfection qu'on trouve déjà dans le judaïsme et qu'Origène, qui est un très très bon connaisseur du judaïsme.
Je pense que c'est un des pères de l'Église, pour
alors
ceux qui ne le sauraient pas.
Voilà, un écrivain ecclésiastique du IIIe siècle.
Début du IIIe siècle.
Voilà, et qui a très bien compris et commenté les livres de la Première Alliance et qui exprime très bien cette idée de séparation qu'on retrouve aussi dans une frange notable du judaïsme, qui n'est pas seulement les nazirs, mais qui sont les pharisiens, les perushim. Les perushim, c'est ceux qui se séparaient pour mieux vivre la loi. Ce n'est pas du tout l'image que l'on en a souvent dans le Nouveau Testament, parce que vous vous souvenez, il y a des passages un petit peu sévères, des apostrophes de Jésus
aux pharisiens,
et à tel point que dans la langue française maintenant, c'est devenu synonyme d'hypocrite.
Oui.
Alors, ce n'est pas du tout ça à l'origine. Le pharisien, c'était celui qui voulait vivre la loi plus à fond et qui prenait les moyens pour le vivre plus à fond et pour être un exemple pour l'ensemble du peuple de Dieu de l'époque qui était en admiration, il faut bien le dire, devant les Perushim, mais qui apparaissaient comme des maîtres de la loi avec les scribes et qui dépassaient très souvent le niveau de vie des prêtres, du sacerdoce attaché au temple, des lévites, etc., qui parfois pratiquaient bien sûr tous les offices du temple, mais à côté peut-être n'avaient pas cette ferveur, cet élan cette capacité à faire de chaque instant, dans le fond, un temps consacré à Dieu.
Il y a une notion que je voudrais aborder avec vous. On dit que la troisième partie des versets, des 37 versets donc, de ce chapitre 19 du Lévitique, concerne les lois et les interdits. Est-ce que la notion d'interdit au pluriel a du sens pour vous dans le sujet que nous abordons aujourd'hui, Ephraim Teitelbaum?
Bien entendu. Chez les 613 mitzvot, c'est-à-dire injonctions, lois, 3 cinquièmes sont les interdictions, 2 cinquièmes à peu près sont des permissions. C'est-à-dire des lois, tu les feras, et des lois, tu les feras pas. D'accord? Maintenant, oui, ici, dans le chapitre 19, il y a des lois. Franchement, la société moderne aujourd'hui, elle doit vivre là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. Et après, je vais revenir un peu sur les prochains. Hein. 9. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de son champ et tu ne ramasseras point la glanure de la moisson. Tu ne grappiras point dans ta vigne et tu ne recueilleras point les graines épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres.
Donc tout ça, c'est effectivement des expressions négatives, mais avec une finalité positive.
Oui.
3400 ans d'aujourd'hui. D'accord ? On n'a pas attendu l'aide sociale à l'enfance. Hein ? Et le ministère des Affaires sociales, voilà. Et à l'étranger, ça c'est le peuple juif. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis toujours comme ça. Et il y a, par exemple, vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude, au préjudice de votre prochain. Vous ne jurez point par mon nom, à l'appui du mensonge. Ce serait profaner le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que les salaires des journaliers ne restent point par devers toi jusqu'au lendemain. Et je peux continuer comme ça. Vous ne pensez pas que c'est moderne un peu? Alors, je reviens vers le prochim, le pauvre prochim. Ça veut dire, les froches, c'est séparé. Hein. Il y avait trois parties à l'époque. En Judée, c'était un royaume, d'ailleurs, quand le Nouveau Testament fait allusion au roi Hérode, ce n'était pas un roi chinois, c'était un roi juif. Donc, ça veut dire, il y avait les royaumes d'Israël, les Judas, Hérode, son fils. Si vous voulez, les prochim, c'était les parties, en réalité, de la campagne. Des gens qui ne vivaient pas à Jérusalem en règle générale étaient loin du temple. C'était des rabbins. Ils étudiaient, comme disait le père d'Ivry, ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la loi, approfondissaient ces lois-là dont je parle, prêchaient la justice, y compris sociale et même écologique, etc. C'est ça la Torah. Et il y avait un autre parti, et ils n'avaient rien à voir avec le pouvoir. Il y avait un autre parti, il s'appelle les Tzadokim. Ils viennent du prêtre Tzadok, qui était le grand prêtre de Jérusalem à l'époque du roi Salomon.
Alors on les appelle Sadducéens pour...
Pour traduire. En chrétien, si je puis dire.
Merci. Non, moi, je connais l'hébreu, donc oui, mais merci beaucoup, voilà. En réalité, c'est ceux-là qui travaillaient avec les Romains. Comme avant, ces mêmes, pas les mêmes personnes, mais ces mêmes types de partis, à travailler avec l'occupant grec, à l'époque d'Alexandre le Grand, et c'est les Séleucides de Syrie qui gouvernaient. Et là, après, il y avait la révolte de Maccabée au IIe siècle avant notre ère, 167 avant notre ère. Et donc, on a libéré Jérusalem, nettoyé les temples, enfin, on a fait le ménage. Mais en réalité, Jésus était pharisien. Mais Jésus, quand il allait à la synagogue pour prêcher, étudier, parler, à qui il a parlé? Aux prêtres de Jérusalem? Pas du tout. Ils s'en foutaient complètement. Ils ne pouvaient pas leur parler. Ils collaboraient avec Rome, avec l'occupant. Pas les prochim. Les pharisiens, comme disait le père d'Ivry, étaient justement hors pouvoir. Ils n'avaient aucun pouvoir. Ce n'est pas eux qui dirigeaient les Sanhédrin. Pas du tout. Ils étaient out. Donc, il faut leur rendre justice. Et puis c'est vrai, j'aime pas quand on dit les juifs. Quoi les juifs? Et qui n'étaient pas juifs? Ah oui, il y a les Romains. Mais les Romains étaient occupants. Mais tout le monde là-bas était juif. C'est comme si on disait aujourd'hui, la police française a attrapé les criminels. Attendez, on est en France, non? La police suisse, alors? Vous comprenez? Bien sûr, la police française. C'est inutile, on dit la police. Tout le monde comprend que c'est la police française. Ben, à l'époque, tout le monde était juif. De Jésus, tous les apôtres, vous connaissez quelqu'un qui n'était pas juif? Voilà, donc, ce n'est pas le juif. C'est entre juifs que les choses s'est passées. Vous savez, Jean-Baptiste, Yohanan HaMatbil, il pratiquait du judaïsme de base, puisque la tvila, la tvila, c'est l'entrée dans l'eau, c'est une pratique c'est une pratique juive ancestrale, millénaire.
Vous voulez peut-être préciser certains points là.
Alors peut-être un point qui me paraît important sur les commandements négatifs et les commandements positifs, puisque c'était votre question.
Tout à fait.
Dans la tradition chrétienne, les commandements négatifs sont vrais, semper et pro semper, c'est-à-dire toujours et pour toujours. Alors que les commandements positifs dépendent aussi du moment de son application. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles eh bien, on puisse remettre un commandement.
Remettre en cause, vous voulez dire ?
Pas remettre en cause, mais remettre, différer son application.
D'accord, remettre à plus tard.
Remettre à plus tard, différer son application, et qui ne sont pas valables, donc saint-père et pro-saint-père, mais qui sont valables en eux-mêmes à appliquer
suivant les circonstances
opportun, c'est-à-dire qui dépendent plus des circonstances. Donc ce sont tous les commandements positifs. Voilà quelle est la règle chrétienne. Donc les commandements négatifs sont très importants, puisqu'ils permettent de montrer où est la frontière rouge. Et notre cher Ephraïm évoquait au début les abominations, et les tovéot, ça veut dire c'est la ligne rouge. Et donc là, il y a quelque chose d'infranchissable qu'il ne faut pour rien au monde franchir. Et d'ailleurs, nous en avons un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 15 qui demande d'éviter le sang, d'éviter l'idolâtrie, d'éviter aussi les pratiques incestueuses ou les pratiques de fornication. Donc le chapitre 15, qui est la première règle, si vous voulez, d'Église, qui est apparue, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, donc éviter la fornication, le sang et l'idolâtrie, montre bien que ces interdits passent de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance et qu'il y aura toujours donc une ligne rouge que l'on ne peut pas franchir. Et donc il y aura toujours des interdits, c'est-à-dire des choses qui resteront, quoi qu'il arrive, abominables aux yeux de Dieu. Et que nul homme, nulle autorité, personne
ne peut remettre
en
non seulement en cause, mais différer.
Différer, voyez. Il y a quelque chose dans la négation, c'est parce que c'est le Seigneur. Voyez, comme dit très bien le Lévitique, je ne peux pas passer outre. Ou alors, si je l'enfreins, évidemment...
À mes risques et périls,
ça va me retomber dessus comme un boomerang. C'est-à-dire, il y aura la loi naturelle, il y aura, etc., qui va me rattraper un jour ou l'autre, parce que je ne serai plus les pieds dans les pieds de celui qui est le Créateur et le Rédempteur.
Alors, ce qui est présenté comme des interdits que vous appelez des commandements négatifs, est-ce qu'il n'existe pas aussi, pour une finalité qu'on pourrait tout simplement appeler aujourd'hui, et tout le monde va comprendre de quoi je parle, le bien commun ?
Alors bien sûr, le bien commun fait partie des finalités. C'est un bien social, c'est un bien, je dirais, plus horizontal. Mais il ne faut pas oublier que saint Thomas d'Aquin appelle aussi Dieu lui-même le bien commun. Voyez, donc c'est aussi un bien transcendant. Et malheureusement, dans nos sociétés, on ramène souvent le bien commun seulement à l'intérêt général et on oublie complètement Dieu. Vous comprenez donc que c'est un terrain un peu piégé que le mot bien commun tel qu'il est utilisé actuellement par les politiques.
Parmi les commandements positifs, il y en a un sur lequel je voudrais vous questionner tous les deux, c'est celui que tout le monde connaît, qui a déjà été cité ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un mot qui me semble très important là-dedans, c'est le « comme ». Ce n'est pas tu aimeras ton prochain moins que toi-même, mais ce n'est pas non plus tu aimeras ton prochain plus que toi-même. C'est comme toi-même. Est-ce que cette précision sur ce mot « comme » vous semble très importante, et notamment en revenant à ce que vient de dire le frère Édouard, les commandements positifs peuvent parfois être différés suivant les circonstances. Ephraïm Teitelbaum.
Alors, je vais commencer par vous dire qu'aucune de ces lois qui sont inscrites dans ce chapitre n'est différée, ni discutée, et je vais vous lire un peu, c'est la traduction rabbinique de l'hébreu, parce que je peux vous citer en hébreu, mais je sais que le public parle l'hébreu parfait, mais je vais le faire en français.
Oui, merci.
Monseigneur Gardez m'a invité à parler dans sa cathédrale d'Auch, après la mort du père Hamel, qui pour moi est un vrai saint. Il est mort, assassiné par un païen, lors de la messe, service saint à Dieu. Quoi de plus noble, quoi les plus méritant de porter les titres de martyrs de la foi que celui-là? On ne l'a pas tué à l'épicerie. Tout le monde a compris. Et donc, il m'a demandé de parler. J'étais très gêné. La cathédrale, il y avait 2-3 000 personnes, était pleine. Hein. Et entre autres choses, je disais la chose suivante. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis Dieu. Et à vous, les chrétiens, les catholiques, je dis que c'est une formule mathématique. Tu aimeras ton prochain égal comme toi-même. Comme, hein? C'est oui, égal.
Comme égal.
Et je dis aux chrétiens que vous aurez du mal à remplir ce commandement, car vous ne vous aimez pas suffisamment. Ce n'est pas un reproche, c'est je constate. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas d'abord vous? Donc ça, c'est première chose. Le public était, il y avait silence des morts. Après, ils sont venus me voir, mais ils étaient étonnés. J'ai dit, vous savez, et avec le père d'Ivry, on a fait des conférences sur l'amour.
Oui.
C'est un mot galvaudé, c'est un mot pas compris, et c'est un mot lourd de sens. Dieu a créé l'univers par amour. C'est écrit dans le judaïsme et lors de nos prières. Et donc, le christianisme, bien sûr, nous avons le même Dieu, a repris cela à juste titre. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'est pas humain, bien sûr, mais il a fait ça avec générosité, avec compassion pour nous tous, pour toute la création, de la création muette jusqu'à l'être humain. Et donc, nous devons chérir cela. Pourquoi Dieu se préoccupe de la relation entre les êtres humains eux-mêmes? Pourquoi? Mais parce que pour lui, si sa création se comporte de manière abominable, il est capable de la détruire. Vous voyez les déluges et vous voyez Sodome et Gomorre. À un moment donné, Abraham négocie, hein, Sodome et Gomorre, il lui dit, mais s'il y a 50 saints, Hamishim Tzadikim, allez, je passe. Mais il n'y avait même pas 10, il n'y avait personne. Et donc, il a détruit Sodome et Gomorre complètement. L'amour de Dieu n'est pas un amour d'un niais. Comprenez? C'est une telle puissance énergétique, spirituelle et de sainteté qu'en effet, si on se rapproche, on est brûlé, on est annihilé. C'est pour ça qu'il faut garder distance. Quand dans les snais, quand Moïse s'approche et ces petits arbustes brûlent, il dit « Shal na'alecha maraglecha ki amakom alav atomet kadoshu » « Enlève tes sandales car les lieux sur lesquels tu es saint » C'est ça. Et c'est privilège de pouvoir parler à Moïse ou Moïse qui parle à Dieu, c'est quelque chose d'inouï. Donc, si vous voulez, dans le chapitre 18, je vais lire juste quelques phrases et puis je passe la parole. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Il parle de relations sexuelles. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir. Ce sont mes lois que vous respecterez. Dans votre conduite, c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Vous observerez donc mes lois et mes statuts parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Que nul, voilà, juste une ou deux, ça commence. Que nul de vous n'approche aucune proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis l'Éternel. Ne découvre point la nudité de ton père, celle de ta mère. C'est ta mère, tu ne dois pas découvrir sa nudité. Ne découvre point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. La nudité de ta sœur, fille de ton père, etc. Il est graine. C'est ça l'immonde. Et c'est ça que Dieu interdit. Donc, les relations intimes dans les pays d'Égypte et de Canaan, on le sait de quoi il s'agit. Et donc, c'est interdit. C'est clairement dit, d'ailleurs, plus tard. Mais vous voyez tous les côtés incestueux, etc. Et c'est dans le détail. Quand il dit, et je termine là-dessus pour l'instant, quand il dit l'homme s'unit à la femme, il quitte sa famille et il devient un. L'homme et la femme deviennent un. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît les mathématiques. Hein? Il y a deux êtres humains, mais une famille. C'est ça la création divine.
Édouard d'Ivry.
Oui, Jésus reprend cette finalité du mariage d'une manière admirable quand on lui présente des cas de figure dans lesquels il aurait pu y avoir divorce, dans lesquels il aurait pu y avoir séparation, etc. Et Jésus reprend toujours, mais il n'en était pas comme cela au commencement. Et il revient toujours au projet divin. Et ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a qu'un unique dessein d'amour bienveillant du Père. Et cet unique dessein d'amour bienveillant du Père nous montre comment aimer et comment tenir dans l'amour. La miséricorde sans la justice, disent nos pères, finit toujours par se dissoudre, par pourrir. Et c'est vrai que la justice sans la miséricorde durcit. Mais nous comprenons très bien qu'il faut les deux, parce que sans repère, sans balise, comme un bon capitaine de bateau qui rentre dans un port, il y a des balises noires et des balises rouges de chaque côté. Et comment ferait-il s'il ne suit pas le chenal? Il va se drosser sur un rocher, il va se casser la figure. Et Dieu nous a donné ses balises pour rentrer au port. Son but, c'est bien de nous conduire tous au port de son amour, au port de la sainteté. Et je dirais que là, nous nous retrouvons 100% à pied d'égalité avec cet immense patrimoine de la tradition hébraïque que nos pères ont reçu et ont essayé de conserver avec le modèle de Jésus, qui est un modèle effectivement particulier parce qu'il est allé jusqu'à l'extrême de l'amour. Quand saint Augustin dit « Je suis toujours tenu à l'amour, il est le seul dont je continue à être le débiteur, même quand je lui ai déjà tout donné ». C'est cet extrême de l'amour finalement que Jésus a voulu montrer, mais sans du tout supprimer la base. C'est sur cette base forte du judaïsme que l'on peut comprendre le christianisme et l'extrême de l'amour.
La question que je posais sur « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qu'est-ce que vous répondriez après la réponse qu'a fournie Ephraim Teitelbaum ?
Eh bien, je dirais que le chrétien va étendre petit à petit son prochain du plus proche. Et les relations intimes que Ephraim a développées dans le sein familial, c'est le plus proche, jusqu'à plus loin, un peu comme un feu, voyez, qui se répand du foyer vers l'extrême. Et je pense en particulier à ce que Grégoire le Grand dit, on doit exercer la miséricorde d'abord vis-à-vis des fidèles avant de le faire pour les ennemis. Mais cela n'exclut pas les ennemis. Et saint Augustin dit, celui qui va aimer jusqu'à ses ennemis ne saute pas par-dessus ses frères, il en est comme du feu qui commence nécessairement par gagner ce qui est tout proche pour atteindre ce qui est le plus loin. Et le but de Jésus, c'est de nous faire aller de plus en plus loin, mais sans jamais sauter au-dessus du plus proche. C'est parce que le plus proche est bien vécu, est bien respecté, et que dedans, c'est là où je m'aime moi-même, parce que j'aime le plus proche qui est la chair de ma chair. Regardez, quand Adam dit à Ève, c'est la chair de ma chair, ça veut dire que c'est vraiment le plus proche. Et de fil en aiguille, vous voyez, une croissance dans l'amour, sans exclure personne, mais à partir du plus proche, sans jamais sauter. Or, là, les grandes tentations universalistes, je dirais, un peu de l'encyclopédie et autres, c'est d'avoir une espèce d'amour froid, un peu universel, sans comprendre que l'on passe de proche en proche jusqu'aux extrémités, comme un feu qui se répand. Et c'est cela qui est la grande nouveauté du christianisme.
Oui, parce que ce qu'on reproche aujourd'hui, pour resituer un peu les choses dans une certaine actualité, on peut reprocher aujourd'hui à certains chrétiens, et certains chrétiens le reprochent à d'autres, d'aimer parfois même leurs ennemis plus qu'eux-mêmes.
Et voilà.
Alors, est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui et vous comprenez cette critique ?
Alors, cette critique est tout à fait, à mon avis, bien située, dans la mesure où, comme l'a dit Ephraim, comme il l'a dit devant Mgr Gardès, parfois on rencontre des personnes qui ne s'aiment pas assez pour pouvoir justement aimer les autres et aimer jusqu'aux ennemis et les aimer vraiment, voyez. Et donc ça demande une anamnèse de bien comprendre nos bases, nos racines pour éviter les catastrophes que l'on peut observer de nos jours dans une mécompréhension finalement de l'unique dessein d'amour bienveillant du Père qui est exprimé de la première alliance à la dernière alliance.
Alors, il y a un point aussi, vous l'avez évoqué, frère Édouard, c'est le troisième verset. « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. » qui renvoie à un autre commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Et je voudrais aussi que chacun apporte sa vision de ce commandement. Je crois qu'il y a un mot hébreu qui est kebet. Kabet, pardon. Et on peut comprendre ça, non pas comme tu honoreras ton père et ta mère, mais tu leur donneras leur juste poids. Est-ce que c'est quelque chose, une notion, en tout cas une compréhension de ce commandement que vous avez déjà rencontré, Ephraim Tettelbaum?
Les 10 paroles sont divisées en deux parties, de droite à gauche, bien sûr. À droite, les 5 paroles ou commandements sont d'ordre divin. Les autres sont d'ordre civil, humain, etc. Kabed et avicha ve imecha, leman yarichun yamecha. Honore, respecte, si je traduis les mots mot à mot, respecte ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. C'est ça la phrase complète. On coupe toujours, on se demande pourquoi. Et pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là du côté divin? Mais parce que je viens faire allusion à la création de l'homme et la femme, et donc la famille. Les modèles divins, c'est un homme et une femme, et bien sûr des enfants. Ça, c'est les modes divins. Et il ne changera pas. Il n'est pas à la mode, il est à la mode, qu'importe. C'est Dieu, il est éternel. Et donc, ils seront un. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, il n'a pas d'avenir pour nous. Et dans l'ordre divin, il trahit sa lignée, il s'est trahi lui-même, et il mourra. Il n'a pas d'avenir sur cette terre. Voilà pourquoi c'est très très important. D'ailleurs, je ferai une remarque avant de laisser passer la parole. C'est le père Edouard disait à juste titre, les biens communs. Notre société, c'est une remarque hein, sur ce que nous vivons, l'environnement, sépare. Pourquoi elle sépare? Je ne crois pas aux biens communs. Biens communs? Mais qui les décrète? Je vous ai dit, Ephraim Tettelbaum dit, si moi je donne et graine ces commandements, je peux dire, mais tu es qui? Et à juste titre. Peut-être c'est juste, peut-être c'est bien ce que je dis, mais je ne suis pas une autorité. Mais vous avez remarqué, c'est pour ça que j'insiste pour lire jusqu'au bout. Qui vous l'a dit? Une autorité supérieure, elle est supérieure, qui est Dieu. Et à ce moment-là, il dit, mes commandements sont les biens communs. Tu laisses, tu ne prends pas tout ce qui tombe de ta moisson. Tu les laisses. Tu les laisses aux pauvres. C'est moi Dieu qui te les dis. C'est pas ta gentillesse. Comprenez? Les biens communs, qui décrète les biens communs? Et l'Assemblée nationale? Et la Cour suprême, qui? Et de quel droit? Sur le plan moral, ce sont des instances politiques. Je critique personne, là. Je n'entre pas dans la politique. Je dis juste, mais de quel endroit vous parlez? Qui êtes-vous pour nous dire ça? Or, Dieu, il est à sa place.
Édouard Ivry, et nous alors, terminerons là-dessus.
Alors, une remarque, c'est que vous faisiez allusion, honore ton père et ta mère, donc à l'Exode au chapitre 20, Deutéronome chapitre 5, avec le poids, parce que Kaved, c'est à la fois honoré, glorifié, et en même temps, par derrière, c'est le mot poids, hein, comme le poids de la gloire. Et il est intéressant de voir que le père est cité en premier, puis la mère en second, alors que dans le Lévitique, eh bien, la mère vient en premier. Crains ta mère et ton père. Et le commentaire de Rashi est admirable. La mère a ici priorité sur le père, car il est manifeste devant lui, Dieu, qu'un fils est plus porté à craindre son père que sa mère. En revanche, il ajoute avec humour, pour ce qui est de l'honneur, le texte a donné priorité au père, donc dans l'Exode, car il est manifeste devant lui qu'un fils est plus porté à honorer sa mère que son père, car elle le câline par des paroles de tendresse. C'est charmant, donc il y aurait comme un équilibre, si vous voulez, entre Lévitique 19.3 et Exode donc 20.12, entre honorer et craindre, de telle sorte que ça s'équilibre. Eh bien, effectivement,
c'est là que la notion de poids intervient.
Et ça, que la notion de poids intervient. Et c'est là, on voit que dans le Nouveau Testament, bah, évidemment, Jésus va faire la synthèse des deux et il dira « Rends tes devoirs à ton père et à ta mère, car Moïse l'a dit. Rends tes devoirs à ton père et à ta mère, c'est-à-dire et la crainte et l'honneur. » Donc c'est très beau. Jésus résume en quelque sorte les deux et rapporte donc cette double donc incise et du Lévitique et de l'Exode et de Deutéronome pour que la crainte et l'honneur soient donnés d'une manière simultanée.
Eh bien, voilà encore effectivement une explication éclairante. Alors, très rapidement,
avancer,
s'il vous plaît.
Mais très rapidement, là-dedans, dans Michelet, Michelet, c'est Proverbes.
Oui, ouais. Ce sont les Proverbes.
Et, voilà, de Salomon, il dit « Écoute, mon fils, les paroles de ton père et obéis à la loi de ta mère. » Vous vous rendez compte? Oui. C'est pas fort, ça?
Oui, oui, pour toujours cet équilibre.
Torah Timecha.
Nous allons malheureusement devoir conclure cette émission. On pourrait continuer, mais on reprendra bien sûr lors du prochain numéro. Donc c'était le premier numéro de cette série consacrée aux traditions juives et catholiques, au regard qu'elles portent l'une et l'autre sur les textes bibliques. Ce premier échange donc a été vraiment très riche. Merci beaucoup à tous les deux, Ephraim Tettelbaum et Edouard Divry. Rendez-vous dans quelques semaines pour le deuxième numéro de la série. Cette émission était animée par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine. Thank you.